je vais en tirer ma gloire et ma grâce, n'est-ce pas? Mais tu vas supporter les conséquences. Permettez-moi, je vois que ça tourne là, mais 2 minutes encore pour que nous aboutissions et je m'arrête. Sinon, vous allez me lapider, mais c'est pas bon non plus. Regardez dans Nombre 20 pour bien expliciter ce psaume 99 dans sa dernière partie. Regardez dans Nombre au chapitre 20. Le chapitre le plus sombre de l'histoire de Moïse. C'est un chapitre qu'on lit en mettant des vêtements de deuil, mes amis. Ça commence de manière terrible avec les querelles. Le peuple cherche à querelle à Moïse. Marie vient de mourir, déjà au verset premier. C'est là que mourut Marie, qu'elle fut enterrée. Et vous connaissez la suite du texte avec ces querelles cherchées par l'assemblée des enfants d'Israël à Moïse et à Aaron parce qu'il n'y a point d'eau. Et au verset 7, l'Éternel parla à Moïse et dit: « Prends la verge et convoque l'assemblée, toi et ton frère Aaron. Vous parlerez en leur présence au rocher et il donnera ses eaux. Tu feras sortir pour eux de l'eau du rocher et tu abreuveras l'assemblée et leur bétail. » Moïse prit la verge qui était devant l'Éternel, comme l'Éternel lui avait ordonné. Moïse et Aaron convoquèrent l'assemblée en face du rocher, et Moïse leur dit: « Écoutez donc, rebelles, est-ce de ce rocher que nous vous ferons sortir de l'eau ?» Puis Moïse leva la main, frappa 2 fois le rocher avec sa verge. Il sortit de l'eau en abondance et l'assemblée but, le bétail aussi. Alors, l'Éternel dit à Moïse et à Aaron: « Parce que vous n'avez pas cru en moi, pour quoi faire ? Pour, et c'est là que ça devient très intéressant pour nous aujourd'hui, pour me sanctifier aux yeux des enfants d'Israël. » Vous ne ferez point entrer cette assemblée dans le pays que je lui donne, ce sont les eaux de Meriba où les enfants d'Israël contestèrent avec l'Éternel qui fut sanctifié en eux. C'est intéressant, nous sommes au cœur du message de la sainteté. Comment est-ce qu'on peut rendre cette expression « pour me sanctifier » ? Alors certaines versions, toujours fidèles au texte hébreu, l'ont rendu un peu différemment. C'est un peu plus compréhensible, sauf quand on a vu vraiment de près la sanctification. Alors l'Éternel dit à Moïse et à Aaron: « Parce que vous n'avez pas eu assez de foi en moi pour montrer ma sainteté sous les yeux des Israélites. » Voilà votre péché. Vous n'avez pas déployé ma sainteté sous les yeux des Israélites. C'est là votre péché. Et verset 13, ce sont les eaux de Meriba où les enfants d'Israël contestèrent avec l'Éternel qui manifesta sa sainteté devant eux, pourrions-nous traduire. Cela veut dire que Dieu a manifesté sa sainteté aux yeux du peuple d'Israël de 2 manières. Il l'a fait en étant fidèle à sa parole. Il a donné l'eau dans ces circonstances. Mais il l'a fait en sanctionnant les conducteurs du peuple, coupables de ne pas avoir manifesté sa sainteté à leurs yeux. Alors prenons simplement le second texte, parce que c'est important, dans le chapitre 27, c'est toujours la même histoire. Chapitre 27, versets 12 et suivants. Chapitre 27, verset 12 et suivant. L'Éternel dit à Moïse: monte sur cette montagne d'Abarim, regarde le pays que je donne aux enfants d'Israël. Tu le regarderas. Ça, c'est la grâce. Et vous savez que Dieu s'était arrangé pour que Moïse n'aille jamais chez un ophtalmo. Il n'a jamais eu besoin d'aller chez un opticien. Ni chez un orthoptiste. Il avait, à l'âge de 120 ans, une vue, des yeux en excellent état.
La grâce de Dieu, c'est sa sainteté, mes amis. Cette sainteté qui fait grâce, qui a préservé les yeux de cet homme pour que, en tout cas, il puisse quand même voir le pays promis dans sa totalité. Vous rendez compte? Il avait un regard d'aigle perçant qui a pu aller jusqu'aux confins de la terre de la promesse par pure grâce de la part de Dieu, n'est-ce pas?
Tu le regarderas, mais c'est mais qui compte. Mais toi aussi, tu seras recueilli auprès de ton peuple, comme Aaron, ton frère, a été recueilli. Parce que vous avez été rebelles à mon ordre dans le désert de Tsin, lors de la contestation de l'Assemblée, et que vous ne m'avez point sanctifié à leurs yeux à l'occasion des eaux. C'est intéressant, cette répétition, n'est-ce pas? Vous n'avez pas honoré ma sainteté devant le peuple. Vous n'avez pas montré ma sainteté sous leurs yeux à propos des eaux de Meriba, etc. Au lieu de faire éclater devant eux ma sainteté par les eaux. Je vous ai donné la trois traductions possibles de ce texte. Elles vont toutes dans le même sens. Mais alors, la fin est extraordinaire. Ce sont les eaux de contestation. Où ça, mes amis? Où? Lisez dans votre Bible. Dites-le moi vous-même. Où? À Kadesh. Ça veut dire rien, Kadesh? Voilà, la sainteté est là, n'est-ce pas? Et c'est le paradoxe de cette histoire, c'est que tout ça s'est passé à Kadesh. Et ce mot, bien entendu, veut dire le saint. Et ce qui est très frappant, mes bien-aimés, c'est que dans Nombre 14, vous connaissez Nombre 14 après le retour des fameux espions? Avec Josué et Caleb, n'est-ce pas? Qui finalement se révoltent, qui veulent même lapider Moïse. Qui veulent se nommer un chef, retourner en Égypte, etc. Savez-vous où ça s'est passé? Ce qui a sanctionné le peuple, qui fait que toute une génération d'adultes est morte dans le désert. Savez-vous comment s'appelle l'endroit où ça s'est passé? Vous le lirez dans Nombre 14, c'est le même endroit. Kadesh, le Saint. Nombre 13 et 14, c'est une violation de la sainteté de Dieu qui ne s'est pas manifestée dans la vie du peuple d'Israël. Et ça a valu à toute une génération de ne pas connaître le repos de la foi. Et vous retrouvez le même problème ici. Vous comprenez? C'est dans ce sens que le psaume 99 a été écrit. Il est question de Moïse et Aaron, n'est-ce pas? Il a dit, oui, tu as pardonné. Mais tu les as punis, tu les as châtiés de leur faute, parce que Dieu est saint. Dieu est saint. Nous voulons prier. Dieu trois fois saint, nos paroles ne sont que des balbutiements, terriblement maladroits, pour évoquer ta personne. Le fait que tu sois le saint. Mais néanmoins, Seigneur, c'est toi qui nous as donné une langue, une bouche, des cordes vocales, tout ce qui était nécessaire pour que nous puissions parler. Et nous t'adorons. Nous inclinons nos cœurs, nos têtes. Nous nous prosternons devant le Dieu saint. Et merci pour la sainteté parfaite de ton Fils bien-aimé. Merci pour l'esprit de sainteté. Révèle-toi à nos cœurs,
à chacun de plus en plus, que nous soyons, Seigneur, beaucoup plus préoccupés de ta personne que de nous-mêmes et que de toute autre chose, pour que nos vies changent, pour que notre hiérarchie de valeurs change, pour que notre regard sur nous-mêmes et sur la société change, et pour que dans notre monde, qui va vers sa fin si rapidement maintenant, notre connaissance de toi par pure grâce, par le ministère du Saint-Esprit, par ta parole, par la révélation de ta parole qui est claire, que notre connaissance de toi fasse de nous des hommes et des femmes fermes dans le monde d'aujourd'hui. Merci pour ta transcendance, merci pour ta justice absolue, merci pour ta grâce incommensurable et merci pour les châtiments dont tu as jalonné notre parcours ici-bas depuis que nous sommes à toi et par lesquels nous avons beaucoup appris à nous méfier de nous-mêmes, à fuir le péché, à résister au diable et à te ressembler de plus en plus en sainteté. Mets simplement dans ta grâce ton sceau sur ce qui a été partagé et qui est conforme à ta pensée. À cause du Seigneur Jésus et du beau ministère permanent du Saint-Esprit. Amen. Chers amis, ne nous lassons pas de relire le début de la première épître de Pierre, puisque l'enseignement des Écritures comporte dans son programme la répétition. Donc nous répétons cette lecture depuis hier après-midi de 1 Pierre 1, versets 14 à 17. 1 Pierre 1, versets 14 à 17. Comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois quand vous étiez dans l'ignorance. Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi, soyez saints dans toute votre conduite. Selon qu'il est écrit, vous serez saints, car je suis saint. Et si vous invoquez comme père celui qui juge selon l'œuvre de chacun sans favoritisme, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre séjour sur la terre. Nous allons vers le livre du prophète Ésaïe, qui vient d'être mentionné en introduction à cette quatrième étude dans le cadre de ce week-end, Ésaïe chapitre 6, passage crucial dans le livre, comme nous allons le voir dans l'histoire, dans l'itinéraire du prophète Ésaïe, incontournable, révélateur. Donc nous ne pouvons le passer sous silence. Et je lis pour vous, donc Ésaïe 6, les 7 premiers versets. L'année de la mort du roi Ozias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé, et les pans de sa robe remplissaient le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes, 2 dont ils se couvraient la face, 2 dont ils se couvraient les pieds, 2 dont ils se servaient pour voler.
et ils criaient l'un à l'autre et disaient « Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées ». Toute la terre est pleine de sa gloire. Les portes furent ébranlées dans leur fondement par la voix qui retentissait, et la maison se remplit de fumée. Alors, je dis, malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures, et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Il en toucha ma bouche et dit « Ceci a touché tes lèvres, ton iniquité est enlevée et ton péché est expié, couvert, effacé, annulé. » Nous posons depuis la seconde partie de notre étude d'hier soir, la question suivante, mais pourquoi donc cet impératif « Soyez saints » ? Et nous avons fortement souligné dès hier soir cet adage « Tel Père, tel fils », en nous appuyant sur le vocabulaire utilisé par l'apôtre Pierre, qui, quelque part, cadenasse l'impératif entre deux mots forts, bien sûr liés l'un à l'autre. Je veux parler du terme « enfant » d'une part, et père, d'autre part, enfant au verset 14 et père au verset 17. Vous êtes né de Dieu, nous l'avons répété ce matin. Vous avez changé de père. Vous avez été adopté par Dieu. Vous êtes devenu participant à la nature divine, ce que le même apôtre Pierre dira de la part de Dieu dans 2 Pierre 1, 4. Non pas dans une sorte de fusion. Vous souvenez, nous avons évoqué le monisme, le panthéisme. Donc nous n'avons pas le droit d'interpréter ce texte de participation à la nature divine sous cet angle-là. Ce serait complètement contraire à l'ensemble des Écritures concernant la personne de Dieu. Mais en fait, nous sommes en communion avec la nature divine est rendu conforme à cette nature divine par le Saint-Esprit qui habite et œuvre en nous. Tel Père, tel Fils, nous sommes appelés et conduits à refléter les qualités morales de Dieu. Il doit y avoir un air de famille. Et puis, au cœur de notre réflexion de cette matinée, de cette fin de matinée, cette remarque qui découle de la précédente, « Votre Père n'est pas n'importe qui et ne se conduit pas n'importe comment. » D'où l'importance cruciale, déterminante de la connaissance de Dieu. Et bien entendu, non d'une connaissance qui serait simplement d'ordre cérébral, intellectuel. Bien entendu que le cérébral, l'intellectuel ne sont pas à rejeter, à mettre de côté. Il existe des tendances de spiritualité, parfois même au sein du monde évangélique, qui, hélas, ont mis les facultés intellectuelles, le cérébral sous le boisseau, pour verser, dans l'émotionnel, dans tout ce qui est le règne de l'affectivité. Et nous savons que cela n'est pas juste. Mais néanmoins, je le dis au passage sans m'y arrêter, quand nous évoquons la connaissance de Dieu, nous allons dans le sens de la signification d'un mot très fort dans les Écritures, dans le vocabulaire de Dieu en quelque sorte, mis à portée de l'homme pour qu'il puisse le comprendre, puisqu'il existe un verbe, connaître, avec ses dérivés, substantifs, etc., qui figure non loin de 1000 fois, par exemple dans l'Ancien Testament, et qui est un verbe qui va précisément dans cette signification, au-delà de la connaissance purement intellectuelle, théorique, abstraite, cérébrale. C'est un terme qui a d'ailleurs été rendu, je trouve, de manière presque provocante par un de ces révolutionnaires, parfois d'ailleurs avec mauvais goût, de la langue française, qui est aussi un traducteur et commentateur de la Bible. Je veux parler du célèbre Chouraki, qu'il faut prendre avec beaucoup de précautions. D'une part parce que c'est un universaliste dans sa pensée religieuse, mais qui, par ailleurs, a une maîtrise des langues anciennes assez remarquable. Alors il a voulu jouer avec la langue française et il a donc inventé une quantité de mots tout neufs qui sont à lui tout seul, qu'on appelle donc des néologismes. Dans certains cas, ce sont des réussites extraordinaires, dans d'autres, des échecs lamentables. Pas pour lui, bien sûr, mais pour ceux qui le lisent. Donc il faut faire attention. Et lui, lorsqu'il est en face de ce petit mot hébreu, il va le rendre par l'expression pénétrer. Tout simplement parce qu'il fait allusion, et ce n'est pas faux, mais ça peut être très mal compris, il fait allusion à l'usage de ce terme connaître en hébreu, qui a 10 reprises dans l'Ancien Testament, est utilisé pour évoquer les relations sexuelles. Hélas, d'ailleurs, dans l'Ancien Testament, non seulement les relations sexuelles légitimes à l'intérieur d'un couple homme-femme marié, mais aussi dans le cadre de l'homosexualité, dans Genèse 19, par exemple. Hein? Fait sortir cet homme afin que nous le connaissions. Adam connut Ève, sa femme. C'est le même terme. Mais c'est un terme qui est d'une grande richesse si justement on comprend aussi que dans la pensée de Dieu, l'usage de la sexualité dans le respect de la sainteté de Dieu, signifie qu'elle s'inscrit uniquement dans le cadre du mariage entre un homme et une femme, et que c'est une forme d'amour qui a cette dimension physique toute particulière, amour avec le corps, qui est le prolongement, le couronnement de l'amour avec le cœur. Dans les Écritures, la sainteté de Dieu part toujours de l'amour avec le cœur pour aller à l'amour avec le corps. Et la puissance des ténèbres qui caricature en permanence l'harmonie de Dieu, le cosmos de Dieu, comme dit la Bible, va en sens inverse. Et elle susurre à l'oreille des humains qu'il vaut mieux commencer par le corps pour aller vers le cœur. Et nous avons le résultat destructeur chaque jour et plus que jamais dans l'histoire des hommes sous nos yeux, n'est-ce pas? Connaissance de Dieu. Au point même, c'est si beau, n'est-ce pas, que le terme connaître est parfois remplacé dans les Écritures, et c'est juste, par le terme aimer. Quand il est dit que Dieu a connu Jérémie ou a
connu Abraham, cela veut dire qu'il est entré dans une relation particulière avec Abraham, avec Jérémie, avec d'autres, qui était l'effet de son amour, n'est-ce pas? Il a bien voulu partager avec sa créature, avec ses enfants, avec ses serviteurs, certains secrets de son intimité. Il est dit que les secrets de l'Éternel sont précisément pour ses intimes, psaume 25, n'est-ce pas? Voyez, c'est ça, la connaissance de Dieu. La connaissance de Dieu, c'est cette entrée dans une relation avec lui, une relation qui implique la totalité de notre personne. Quand j'entre en relation avec Dieu, je me donne tout entier à lui. Je ne donne pas une partie de ma vie à l'exception d'une autre. Je ne garde pas une dimension pour moi. Je lui donne tout ce que je suis et lui, son bonheur, c'est de se donner aussi. Bien entendu, il ne peut pas se donner dans sa totalité parce que nous ne pourrions pas le supporter. Donc il mesure avec une sagesse qui est la sienne seule ce que nous pouvons supporter en fonction de notre maturité, n'est-ce pas? Donc ce qui va évoluer normalement au fil de notre croissance avec Christ, et il est évident que si nous avons marché avec 10, 20, 30, 40, pendant 10, 20, 30, 40 ans dans son intimité, dans sa présence, la révélation du supportable sera plus grande, n'est-ce pas? Parce qu'on vit plus près de lui, voyez? Donc je tenais à le préciser sans pouvoir m'y attarder, parce que c'est trop important hein, de réaliser l'importance de cette connaissance de Dieu qui s'appuie sur la doctrine des Écritures, mais qui ne reste pas emprisonné dans la doctrine, qui entre dans la pratique. C'est Richard Wurmbrand qui disait, c'est une chose de savoir théoriquement ce qu'est la grâce de Dieu et de réciter « Ma grâce te suffit car ma puissance s'accomplit dans ta faiblesse », l'expérience de Paul avec son écharde, mais il disait « Mais c'est pas suffisant, mieux vaut connaître celui dont la grâce suffit pour pouvoir expérimenter sa grâce ». C'est ça la connaissance de Dieu, n'est-ce pas? Et notre problème, surtout dans notre Europe occidentale, très marquée par la Renaissance, par tout ce qui nous vient des philosophies grecques et autres qui ont terriblement marqué nos esprits, nous sommes très marqués par l'abstrait, par le raisonnement. Nous manquons terriblement de sens pratique, n'est-ce pas? Nous vivons un déséquilibre terrible qui est en train de nous perdre dans bien des domaines, n'est-ce pas? Donc, notre Père n'est pas n'importe qui, ne se conduit pas n'importe comment, importance de le connaître. Et puis alors, à partir de là, sur la base d'Ésaïe 40, 25, « À qui me comparerez-vous pour que je lui ressemble ?» dit le Saint. Nous avons essayé de comprendre par des définitions, mais en les incarnant, ces définitions, la signification donc de Dieu est saint, Dieu est kadosh, celui qui n'a pas de pareil. Je ne vais pas redonner l'étude de ce matin. Et finalement, nous avons clos avec le psaume 99 qui nous montre précisément ces facettes de la sainteté de Dieu, sa transcendance absolue, sa justice absolue, sa grâce et son jugement, en prenant l'exemple de Moïse. Nous en venons donc, je me suis posé un instant la question devant Dieu, dans mon temps entre les deux réunions, mais Seigneur, est-ce que je dois continuer sur cette dimension? Est-ce que ça ne va pas apparaître comme vaine redite? Et Dieu m'a convaincu qu'il fallait continuer dans ce sens-là, d'autant plus que nous allons pouvoir compléter, autant que faire se peut, le panorama à cet égard. Ésaïe 6, 1 à 7, dominé par ce verset 3, mis en musique dans toutes les langues du monde où se trouvent des disciples de Jésus-Christ. C'est un verset incontournable. Ésaïe 6, verset 3, ces séraphins qui criaient l'un à l'autre et disaient « Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées ». Alors je me propose et je vous propose de faire une analyse du texte pour à la fois enfoncer le clou et puis pour apporter d'autres éléments parce que c'est fondamental pour les répercussions que cela va avoir ensuite dans notre vie, puisque après le pourquoi de cet impératif, moi je pense que ce sera pour l'année prochaine, nous avons le comment de cet impératif dans la première épître de Pierre. Mais vous ne pouvez pas aborder le comment sans en tout cas avoir de bonnes bases concernant le pourquoi. Verset 1er. L'année de la mort du roi Ozias. L'année de la mort du roi Ozias. Si nous croyons, et je le répète, que les Saintes Écritures ont été verbalement inspirées par Dieu, nous considérons donc que ce premier fragment de verset qui ouvre le chapitre 6 n'est pas secondaire. L'année de la mort du roi Ozias. Nous n'allons pas, là aussi, faire du saut de mouton en disant « Oh, ça n'a aucune importance ». Bien au contraire. Il faut savoir que nous sommes aux alentours de l'an 740 avant Jésus-Christ. Les commentateurs se promènent entre 734, 735 et 740 à peu près. De toute façon, ça ne change pas grand-chose. Et vers 740, le roi Ozias, qui s'appelle aussi Azaria, suivant les textes, puisque vous savez que l'histoire des rois de Juda est répétée, on la trouve à deux reprises, entre les livres des rois et les chroniques, avec chaque fois des aspects complémentaires, et c'est très très beau parce que l'objectif de ces livres est différent et complémentaire. C'est donc l'année où le roi Ozias ou Azaria meurt lépreux. Et c'est certainement la raison, ou une des raisons, soyons prudents, une des raisons pour lesquelles il est fait mention de la mort du roi Ozias. Il meurt lépreux après un très long règne, après le règne de Manassé qui a duré 55 ans et ça a été une catastrophe. Lui règne 52 ans et Ozias avait bien commencé. Il est comme pratiquement la moitié des bons rois de Juda qui ont bien commencé et qui ont mal terminé. Lui, au début, ça marche très bien, il devient de plus en plus puissant. C'est un ingénieur, c'est un roi ingénieur. C'est-à-dire qu'il va faire, il va avoir un esprit très développé pour inventer, notamment dans le domaine des sièges, des guerres. Il fait penser à ce qui s'est passé ensuite dans l'Empire romain, n'est-ce pas, avec les catapultes, la tortue et les béliers et tous les autres usages d'instruments de guerre. Il est comme ça. Dans une quantité de domaines, il invente. Et Dieu ne lui fait aucun reproche dans ce domaine. Dieu l'a équipé pour être un ingénieur, un inventeur. Mais le problème, c'est que le succès lui monte à la tête. Et il arrive donc un moment où, comme d'autres rois de Juda, il prend une indépendance orgueilleuse vis-à-vis de Dieu, il prend ses distances, et il reste ingénieur. Mais là où Dieu l'a béni dans son ingéniosité, dans ses inventions, parce qu'il le craignait, il va maintenant devoir le châtier très sévèrement dans sa sainteté, parce qu'il utilise son talent d'ingénieur dans un domaine où il n'a pas le droit de l'utiliser. Vous le lirez dans les livres des chroniques, c'est-à-dire, je suis en train de chercher exactement l'endroit où il est question de lui, dans Deux Chroniques 26, et vous verrez donc que jusqu'au verset 15, il nous est dit de lui que sa renommée s'étendit au loin, car il fut merveilleusement soutenu ou extraordinairement aidé jusqu'à ce qu'il soit devenu puissant. Jusque-là, Dieu l'aida. Et n'ayons crainte de dire que Dieu l'aida, même si c'est le saint. Puisque 15 fois dans l'Ancien Testament, il est dit que Dieu aide l'homme. Quand il est dit que la femme a été mise aux côtés de l'homme pour l'aider, les femmes très féministes disent « Comment aider mon mari ?» Ce à quoi je leur réponds, mais soyez rassurés. Le même terme est utilisé, de Genèse 2:18, donc est utilisé 15 fois dans l'Ancien Testament pour évoquer Dieu qui aide l'homme. Donc soyez fiers. Si Dieu aide l'homme, vous pouvez bien aider votre mari, n'est-ce pas? Dieu l'aida. Et puis à partir du verset 16, je l'ai mis en gros caractère rouge, Dieu le frappa. Dieu le frappa, mais lorsqu'il fut puissant, son cœur s'éleva pour le perdre, il pécha contre l'Éternel son Dieu. Pourquoi? Ben parce qu'il veut innover. Il veut innover dans le domaine de sa spiritualité, dans le domaine du culte. Il pense que les anciens chemins de Dieu sont dépassés et que peut-être il faut s'adapter avec son temps. C'est volontairement que j'utilise cette formule. Donc, plus question de vivre le culte comme on a vécu autrefois. C'est morose, c'est froid, n'est-ce pas? Aujourd'hui, il faut tout sentir, il faut valser, il faut faire des gestes, il faut se remuer, il faut se dandiner, il faut s'embrasser, et enfin bref. Hein, c'est notre problème aujourd'hui, parce que nous avons perdu le sens de la sainteté de Dieu. Bien sûr que Dieu ne veut pas que nous soyons austères, etc. On aura l'occasion de le dire, si ce n'est pas cette année, c'est l'année prochaine, Dieu voulant. Mais, donc ce n'est pas ce que je veux dire. Mais on ne peut pas, avec Dieu, penser que, avec le temps, on peut changer les formules comme on veut. Parce que la doctrine de Dieu est une doctrine aussi immuable que l'est sa sainteté. Alors il se dit, ben, moi je vais être sacrificateur. Je serai roi et sacrificateur. Après tout, qu'est-ce qui m'empêche, moi, d'aller balancer mon truc d'encens et donc de faire monter des prières à l'aide de l'encens dans le lieu saint? Eh oui, mais Dieu est saint. Dieu est saint. Et alors que toute une équipe de sacrificateurs courageux vient le prendre la main dans le sac, n'est-ce pas, et lui dit, il le supplie d'arrêter, de quitter cet endroit où il n'a rien à faire, comme le président de la République n'a rien à faire à l'Assemblée nationale, hein, n'est-ce pas, il résiste. Et voilà que subitement, il est frappé de lèpre. Et on va alors le prendre, le faire sortir le plus rapidement possible de ce lieu qui exprime la sainteté de Dieu, et il vivra à l'écart, lépreux, jusqu'à la fin de ses jours, et il sera enterré, donc, en tant que lépreux. Alors, je ne sais pas si vous voyez la saveur, le piment que ce tiers de verset donne à la suite du texte. Vous comprenez pourquoi Ésaïe 6 commence de cette manière? Parce qu'il y a eu crime de lèse-majesté. Parce qu'on a essayé d'attenter à la sainteté de Dieu. Et qu'on n'attente pas à la sainteté de Dieu quand on prétend vouloir le servir sans avoir à en supporter les conséquences. Et en fait, toute la suite du texte est comme une mise au point de la part de Dieu. Il fallait qu'il y ait une mise au point. Et c'est Ésaïe qui a été chargé par l'Éternel et par une expérience inoubliable de faire cette mise au point, de remettre les pendules à l'heure. Et c'est la même chose dans l'Église de Jésus-Christ, c'est la même chose dans nos églises locales, c'est la même chose dans nos pays, dans nos nations, dans nos unions d'Église, dans nos groupements, dans notre chrétienté. Il y a des moments où Dieu remet les pendules à l'heure, mes amis. Pensez à ce qui se passe à l'époque de la royauté de David. David qui, à un moment donné, parce que c'est un passionné de Dieu, parce qu'il aime l'Éternel, il veut honorer l'Éternel, il voudra, vous le savez, édifier le temple, n'est-ce pas? Et il dit, c'est pas possible, on ne peut pas laisser l'Arche de l'Alliance à l'écart, ça fait 20 ans qu'elle est là, chez quelqu'un qui est d'ailleurs extraordinairement béni, Obed-Edom, n'est-ce pas? Non, il faut ramener l'Arche à Jérusalem. C'est quelque chose de très noble, quelle attitude qui ne peut que réjouir le cœur de Dieu. C'est l'amour pour Dieu qui conduit le roi David à procéder de cette manière. Sauf que il ne va pas voir dans la doctrine, dirions-nous, dans l'Ancienne Alliance, dans les premiers livres de la Bible, dans la Torah, il ne va pas voir comment l'arche devait être transportée. Alors, puisqu'elle était arrivée en terre d'Israël, vous savez qu'elle était partie chez les Philistins, et finalement, il y avait eu tellement de plaies qu'ils se sont dit, il faut qu'on offre des sacrifices, qu'on fasse des petites poupées, des souris et tout ce que vous voulez, là, pour s'en sortir. Et puis, ils ont renvoyé l'arche sur un chariot tiré par des bœufs. Et ça s'est bien passé, puisque le chariot a traversé la frontière, il est arrivé dans un village, ça a été quelque chose d'absolument extraordinaire. Alors on est resté sur cette idée, on voit l'arche, on voit un chariot, n'est-ce pas? Eh oui, mais est-ce que c'est conforme à la doctrine de Dieu? D'autant plus que c'est l'Arche de l'Alliance qu'on transporte. Je ne sais pas si c'est ce matin ou hier que nous avons souligné qu'il était question du propitiatoire, que Dieu, dans sa gloire, en quelque sorte, était entre les chérubins. C'est son marchepied, c'est son trône au milieu des hommes, lui que le cosmos tout entier ne peut contenir puisqu'il en est l'auteur, n'est-ce pas? Donc, en quelque sorte, il transporte sur ce char le trône de Dieu pour que l'homme puisse comprendre, pour que le peuple d'Israël puisse comprendre comment Dieu, dans son amour, accepte d'être au milieu de son peuple. Jusqu'à ce qu'à un moment donné, il y a un bœuf peut-être qui a trébuché, je ne sais quoi, mais toujours est-il que le char s'est mis à pencher et Uzza, en essayant de le tenir pour que l'arche ne tombe pas au sol, vous vous rendez compte, le trône qui va tomber est foudroyé par le Dieu trois fois saint. Même type de situation que le roi Ozias. Dieu remet les pendules. Et nos amis, si nous sommes véritablement disciples de Jésus-Christ, nous devons nous attendre à ce que dans nos vies aussi, aujourd'hui, dans la Nouvelle Alliance, Dieu remette les pendules à l'heure si nous jouons avec la majesté divine. Le Dieu plein de grâce, nous l'avons vu, est aussi, même aujourd'hui, le Dieu qui juge. C'est ce qu'il fit jadis dans l'église de Jésus-Christ à Corinthe. C'est pour cela qu'un certain nombre sont malades, qu'un certain nombre sont morts. 1 Corinthiens 11, n'est-ce pas? Et ça n'a pas changé depuis. Dieu reste le même. Ce n'est pas à nous de brandir le doigt en disant « Si un tel est malade, ça veut dire qu'il a violé la sainteté de Dieu. » Certains le font, c'est une terrible responsabilité qu'ils prennent. Mais néanmoins, c'est une évidence que Dieu remet les pendules à l'heure. Pas d'innovation dans tout ce qui concerne la doctrine de Dieu. Nous devons apprendre à continuer à marcher dans les anciens chemins. Le grand reproche que fera Ésaïe et d'autres prophètes avec lui, c'est précisément d'avoir voulu inventer des nouveaux chemins de spiritualité dans la vie du peuple d'Israël. Et aujourd'hui, les nouveaux chemins font floraison, mais Dieu remet les pendules à l'heure. Il se trouve que cet événement, l'année de la mort du roi Ozias, correspond grosso modo au tout début du ministère du prophète Ésaïe. C'est en quelque sorte le jeune prophète Ésaïe. Tout frais, tout neuf, que Dieu, bien entendu, a préparé comme il a préparé les autres prophètes. Il en est à ses débuts. Et là, cette année-là, de la mort du roi Ozias, qui a dû être un événement absolument retentissant, parce que ça doit être terrible d'avoir comme ça un souverain en place qui un jour a été frappé de plein fouet par la lèpre, alors qu'il avait été un roi puissant, ingénieur et ingénieux à la fois, et qui meurt reclus à l'écart, en lépreux, avec tout ce que ça signifiait, d'autant plus que la lèpre de cette époque n'était pas comparable à nos lèpres que nous évoquons aujourd'hui. Je vis le Seigneur. Je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé, et les pans de sa robe remplissaient le temple. Je vis le Seigneur. Quelle surprise! Lorsque tout d'abord, le Seigneur Jésus lui-même, quand il était au milieu des hommes, en terre d'Israël, évoquant l'incrédulité, en particulier des chefs du peuple, malgré tout ce que Jésus avait fait pour manifester l'identité de Dieu au milieu des hommes, comment Jésus va évoquer Ésaïe 6, citer indirectement ce passage, les Écritures soulignant, c'est dans Jean au chapitre 12 et au verset 41, que le Seigneur en question dans Ésaïe 6, c'est Dieu le Fils. C'est Dieu le Fils. C'est le Seigneur que nous appelons nous le Seigneur Jésus, n'est-ce pas? C'est lui qui est là, au cœur de ce texte. Comme pour nous rappeler que jamais au jamais, nous n'avons le droit de faire de différence au niveau de l'essence, au niveau de la nature, au niveau des qualités, des attributs. Nous n'avons le droit de faire de différence entre le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Parce qu'il est ici, d'après Jean 12, 41, question du Fils. Ésaïe a vu la gloire du Fils de Dieu. Et il est dit, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé et les pans de sa robe remplissaient le temple. Le temple, dans l'Ancien comme dans le Nouveau Testament, nous n'avons pas qu'un seul mot dans les langues bibliques pour désigner le temple, mais plusieurs. Et ici, le mot qui est utilisé évoque le lieu saint. Entre le vestibule et l'entrée du lieu très saint. Donc vraiment le lieu saint, là où précisément les sacrificateurs vont. Là où jamais Osias n'aurait dû se permettre d'aller. Mais ce qui est quand même intéressant, dans cette manifestation sensible, visible, de la gloire du Fils, c'est que ce ne sont que les pans de la robe du Seigneur qui remplissent cet endroit. Qu'est-ce que ça veut dire alors concernant l'immensité de sa majesté si nous n'avons que les pans de sa robe qui remplissent ce lieu saint? Des séraphins se tenaient au-dessus de lui, ils avaient chacun six ailes, de dont ils se couvraient la face, de dont ils se couvraient les pieds, de dont ils se servaient pour voler. Alors on a beaucoup glosé sur les séraphins, parce que la Bible est très sobre lorsqu'elle évoque cette hiérarchie des anges et de ceux qui sont dans le camp de Dieu, n'est-ce pas? Il y a beaucoup de précautions, Dieu ne veut pas qu'on commence à spéculer là-dessus, à inventer. Ça, c'est la différence entre les Écritures et puis ce qu'on appelle tous les textes apocryphes, ces textes secrets, cachés, particuliers, où on a embelli, brodé, on est passé à la légende, n'est-ce pas, aux choses qui vous remuent un petit peu partout, mais qui ne correspondent pas aux Écritures. Alors, les séraphins, il semblerait que le verbe « saraph » signifie, donc cela dérive de ce verbe saraf qui signifie brûler, ce seraient les brûlants, les ardents, les brûlants. Et ils seraient donc une catégorie d'anges, bien entendu en rapport avec la sainteté divine et la purification du péché. Ce serait là leur ministère, mais nous devons rester prudents, il se peut qu'il y ait d'autres choses, la parole de Dieu est très sobre. Mais en tout cas, ils sont là. Et vous voyez avec quelle précaution ces créatures célestes sont là à cause de la gloire, de la sainteté du Fils de Dieu. Et donc ils crient, et ils crient l'un à l'autre, ils s'entretiennent en quelque sorte. On peut imaginer ce que ça signifie, n'est-ce pas? Tout en se protégeant, ils s'adressent l'un à l'autre. C'est un véritable concert de louanges en l'honneur de ce Seigneur majestueux. Et ils se disent « Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. » L'Éternel des armées. Rien n'est au hasard dans ce texte. Et c'est ça ce qui doit nous conduire les uns et les autres à prendre le temps de nous arrêter quand nous sommes en face d'un texte, pour voir, Bible en main, en allant ailleurs, ce que les choses veulent dire. Trop souvent, nous vivons à une époque où il faut faire toutes choses tellement vite, n'est-ce pas, que même nos disciples de Jésus-Christ, nous lisons les Écritures trop vite. Et à cause de ça, nous ne voyons pas toute la cohérence du plan de Dieu lorsqu'il développe un texte, lorsqu'il développe un paysage, lorsqu'il développe une photo, n'est-ce pas? Il y a une cohérence de Dieu, il y a une harmonie dans la pensée de Dieu. Elle est là, elle est présente, puisque Dieu, le Fils de Dieu même n'est pas appelé n'importe comment, il est présenté comme l'Éternel des armées. C'est quand même extraordinaire. L'Éternel des armées. 56 fois, sous la plume du prophète Ésaïe, dans les 39 premiers chapitres. 56 fois. Et ensuite, 6 fois seulement, dans les chapitres 40 à 66, alors que ces chapitres 40 à 66, nous l'avons déjà dit, sont parmi les plus beaux et les plus riches chapitres pour nous présenter la personne de Dieu. C'est intéressant. Si vous cherchez l'expression « l'Éternel des armées » dans le Pentateuque, dans les cinq premiers livres de la Bible, vous ne la trouvez pas. Par contre, si vous allez dans Agé, Zacharie, Malachie, qui appartiennent à la même période du retour de l'exil, de la reconstruction d'abord du temple, puis de la ville de Jérusalem, vous allez les trouver 90 fois. Dans 20 chapitres au total sur les trois livres, n'est-ce pas? Ce qui a beaucoup de signification, nous n'allons pas nous arrêter sur certains aspects, mais tout de même, faire une remarque, donc 62 fois dans Ésaïe, et ce qui va nous aider, mais dans le cadre de l'enseignement, il n'est pas nécessaire de passer forcément par ce chemin-là pour chacun d'entre nous, mais nous avons déjà évoqué ce qu'on appelle la version des Septante, hein, cette version grecque de l'Ancien Testament, qui est intéressante, d'ailleurs dont les rédacteurs inspirés du Nouveau Testament se sont beaucoup servis. Ils ont emprunté beaucoup à la version grecque des Septante. Et cette version des Septante traduit l'expression, le mot hébreu, hein, l'expression éternelle des armées en hébreu, est rendue en grec par un mot particulier, pantokrator, kratos, kratos, hein, la plutocratie, l'aristocratie, kratos, c'est la puissance. Hein. Le pantokrator que l'on retrouve 10 fois dans le Nouveau Testament. C'est toujours intéressant de voir ensuite comment le même terme est utilisé dans le Nouveau Testament. Voyez, il figure 10 fois dans le Nouveau Testament. Et sur ces 10 fois, 9 fois, il est présent dans le livre de l'Apocalypse. C'est pas rien. Parce que là encore, l'Apocalypse, c'est aussi un livre de la révélation de la gloire de Dieu, de la sainteté de Dieu, n'est-ce pas? 9 fois sur 10. Et ce terme grec, pantokrator, est utilisé aussi bien pour évoquer Dieu le Père que Dieu le Fils. Dans l'Apocalypse, ça va ensemble. Et les traducteurs de cette expression pantokrator dans le livre de l'Apocalypse l'ont rendu comment ce terme? Par l'expression le Tout-Puissant, ou encore par une locution, un ensemble de mots, une petite phrase, le souverain aux pouvoirs illimités, ou encore le dominateur universel. C'est-à-dire qu'il est question de cette souveraineté absolue de Dieu qui nous est décrite de manière tellement remarquable dans le livre de Daniel en particulier. Donc nous sommes en face, dans Ésaïe 6, de ce souverain aux pouvoirs illimités, de ce dominateur universel, du Tout-Puissant, l'Éternel des armées. Alors les armées? Les armées, ben, les Écritures en parlent des armées. Il est question même dans Ésaïe 40, c'est intéressant, qui a été évoqué tout à l'heure. Nous aurions pu étudier Ésaïe 40, parce qu'il y a alors sur la sainteté de Dieu et la gloire de Dieu toute une succession de petits paragraphes qui montrent la supériorité absolue de Dieu sur tous les aspects de sa création. Et puis quand il arrive au bout, il dit « Bon, maintenant j'ai quand même un problème avec mon peuple ». C'est que malgré le fait que je sois supérieur aux anges, aux étoiles, aux potentats qui gouvernent, etc., mon peuple me méprise, il trouve que je ne m'occupe pas assez de lui, que je suis un dieu dépassé, que je suis un dieu vieillot, etc. Et alors c'est là que dans la fin d'Ésaïe 40, je brûle quand même d'envie juste de vous lire au moins ça. Pourquoi dis-tu, Jacob, verset 27, pourquoi dis-tu, Israël, ma destinée est cachée devant l'Éternel, mon droit passe inaperçu devant mon Dieu? Ne le sais-tu pas? Ne l'as-tu pas appris? C'est le Dieu d'éternité, l'Éternel, qui a créé les extrémités de la terre. Il ne se fatigue point, il ne se lasse point. On ne peut sonder son intelligence. Il donne la force à celui qui est fatigué. Il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Les jeunes gens se fatiguent et se lassent. Les jeunes hommes chancellent. Mais ceux qui se confient en l'Éternel échangent leur force. Ils prennent leur vol comme les aigles, ils courent et ne se lassent point, ils marchent et ne se fatiguent point. Le Dieu saint qui répond à un peuple qui le méprise. Alors les armées de l'Éternel, ce sont les anges, ce sont les étoiles, ce sont les forces de la nature. Alors il y a des textes extraordinaires. Qui dans le ciel peut se comparer à l'Éternel? est semblable à toi parmi les fils de Dieu? Dieu est terrible dans la grande assemblée des saints. Il est redoutable pour tous ceux qui l'entourent. Éternel, Dieu des armées, qui est comme toi puissant, ô Éternel? C'est pas beau, ça? Psaume 88, versets 7 à 9. Ou encore, ainsi parle l'Éternel qui a fait le soleil pour éclairer le jour, qui a destiné la lune et les étoiles à éclairer la nuit, qui soulève la mer et fait mugir ses flots, lui dont le nom est l'Éternel des armées. Jérémie 31, verset 35. Vision de Dieu. Une fois de plus, quelle est notre vision de Dieu? Notre vision de Dieu est-elle une vision doctrinalement juste déjà? Et ces séraphins criaient l'un à l'autre et disaient « Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. » Saint, Saint, Saint. Ce n'étaient pas des séraphins bégayeurs. Et pourtant, ils se répétaient. Ils ne s'encombraient pas de la nécessité de l'élégance dans le langage, même dans celui de l'adoration. Simplement, nous sommes dans un contexte hébreu, et la communication se fait vis-à-vis du peuple hébreu. Et là intervient la stylistique, la manière de communiquer sur le plan linguistique, n'est-ce pas? Et c'est ainsi qu'il est question ici d'une triple répétition. Tout simplement parce que les Hébreux avaient coutume d'exprimer les superlatifs et la plénitude au moyen de la répétition. Nous, nous avons généralement trois mots. Bon, mieux, le meilleur. Le meilleur est le superlatif. Meilleur ou mieux est un comparatif de supériorité. Et il y a une gradation de l'ordinaire à l'extraordinaire, dans le sens positif ou négatif. Les Hébreux ne connaissent pas ça. Leur approche orientale, en tant qu'Hébreux, est dans la répétition. De la même manière aussi, d'ailleurs, que même nous, en France, on peut aussi parfois exprimer un superlatif par la répétition, parce que parfois c'est la seule manière de dire combien nous sommes abasourdis, étonnés, stupéfaits, etc. On se répète. Mais là-bas, c'est la tournure habituelle. Alors, vous avez dans l'Ancien Testament la répétition, c'est-à-dire, nous dirons, nous, pour mieux nous comprendre, la double répétition. On dit et on redit. Alors, il y a dans l'Ancien Testament des dizaines de passages qui, dans le texte hébreu, contiennent la répétition d'un mot. Mais vous imaginez bien que si, servilement, on traduisait systématiquement en répétant les mots chaque fois qu'ils sont présents deux fois, dans certains cas, les textes seraient extrêmement lourds. Donc, les traducteurs sont placés devant la nécessité de choisir là où il est très important d'indiquer la force d'une pensée de Dieu par la répétition. Alors ils mettent la répétition, mais on ne le met pas systématiquement partout. Vous allez avoir cela dans le grec du Nouveau Testament, mais traduit aussi en français. D'ailleurs, c'est plutôt de l'hébreu en réalité qui a été repris dans le Nouveau Testament. En vérité. Alors parfois, il y a une seule fois. Amen, c'est de l'hébreu, c'est vrai, c'est solide, Dieu est fidèle dans sa parole, c'est fiable, c'est la vérité. Mais parfois c'est amen, amen, je vous le dis en vérité, en vérité. Alors quand même Jésus répète, c'est une vérité qui est d'importance absolument incontournable, il faut faire d'autant plus attention qu'il répète. Alors dans l'Ancien Testament, dans Genèse 14, 10, vous verrez, puis, P-U-I-T-S, puis. Dans Deux Rois 25, verset 15, d'or, D-O-R. Alors vous comprenez bien qu'en français, ça ferait un peu, parfois un peu bizarre, n'est-ce pas? Ça doit passer dans l'enseignement, absolument. Montrer ces répétitions. D'or, ou encore, oui, d'or, ça sera traduit en français par or fin. Ça veut dire que c'est le nec plus ultra de l'or. C'est l'or le plus fin qui soit. Et c'est souvent comme ça. Dans cette répétition, mais ce qu'on appelle l'emphase, n'est-ce pas? Quand on veut mettre l'emphase, mettre en évidence quelque chose qui est poussé très loin, donc on le répète. Par exemple, dans Ésaïe 57, 19, paix. Alors ça va être traduit en français par l'expression paix parfaite. C'est pas la paix toute seule, c'est vraiment la paix à son sommet, voyez. Alors maintenant, il y a la triple répétition. Le mot répété une première fois, puis une deuxième fois, n'est-ce pas? Donc trois fois au total. Alors dans Ézéchiel, on va prendre un exemple, Ézéchiel 21, 32, Ézéchiel 21, verset 32, dans ce livre extrêmement solennel, face au péché de Juda, et là, Dieu s'adresse par l'entremise d'Ézéchiel au roi Sédécias, le dernier roi de Juda, qui finira de manière terrible, après qu'on aura crevé les yeux, enfin bref, on aura fait des choses abominables à Babylone, hein, sur sa propre famille. Et finalement, il sera à son tour exécuté. Et au sujet de Sédécias, Dieu dit, « Et toi, verset 30, profane, méchant, prince d'Israël, dont le jour arrive au temps où l'iniquité est à son terme, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, la tiare sera ôtée, le diadème sera enlevé, les choses vont changer, ce qui est abaissé sera élevé, ce qui est élevé sera abaissé, j'en ferai une ruine. » Alors voyez, là, on a laissé. Ça, c'est un superlatif, très négatif. Mais on enfonce le clou. Il faut que ça soit comme un électrochoc sur les auditeurs. Une ruine. Si vous allez dans Jérémie au chapitre 7 et au verset 3, Jérémie chapitre 7, verset 3, là, c'est donc le prophète Jérémie qui, sur l'ordre de Dieu, se place à la porte de la maison de l'Éternel. C'est un endroit absolument stratégique, là où passent beaucoup de gens. Et là, publie cette parole, verset 2, et dit « Écoutez la parole de l'Éternel, vous tous hommes de Juda, qui entrez par ces portes pour adorer l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel des armées. » Voyez l'expression ici. C'est pas pour rien qu'elle est là. Parce que Jérémie est en face d'un peuple qui a oublié de se souvenir de l'identité de Dieu, de la sainteté de Dieu, qui méprise Dieu de plus en plus. C'est devenu écœurant ce qui se passe en Juda. Ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Réformez vos voies et vos œuvres, je vous laisserai demeurer dans ce lieu. Ne vous livrez pas à des espérances trompeuses en disant « C'est ici le temple de l'Éternel, c'est ici le temple de l'Éternel, le temple de l'Éternel. » Voyez, répétition. Pourquoi? Parce que le temple de l'Éternel était devenu un talisman. Et Israël se gargarisait d'avoir en quelque sorte enfermé le Dieu trois fois saint à double tour dans son sanctuaire. Et il faut dire qu'il y a eu énormément de problèmes en terre d'Israël qui ont tourné autour du temple. Ézéchiel 24-21 dit ceci, c'est Dieu qui parle, « Voici, je vais profaner mon sanctuaire, l'orgueil de votre force, les délices de vos yeux, l'objet de votre amour. » Et pour que le peuple de Juda comprenne bien que Dieu est sérieux, Dieu va faire quelque chose de terrible. Mais c'est un électrochoc décisif très important.
il va dire à Ézéchiel, tu sais, ta femme va mourir aujourd'hui. En disant, ta femme, précisément, celle qui fait les délices de tes yeux, l'objet de ton amour, celle que tu préfères à tout autre, qui occupe tant de place dans ton cœur, elle va mourir. Elle va mourir parce que j'ai une leçon à donner au peuple dont tu es le prophète, ou à moi-même en tant que prophète de l'Éternel devant le peuple. Et effectivement, l'épouse d'Ézéchiel va mourir. Et c'est ce qui va donner une pertinence et une percutance particulière au message du prophète concernant le temple de Jérusalem. Vous voyez, les prophètes, dans l'Ancienne Alliance, ils étaient appelés dans leur fidélité à l'Éternel à passer par des chemins extrêmement difficiles, parce que non seulement ils devaient parler, mais ils devaient, dans leur histoire, être des signes électrochocs obligeant le peuple à se poser des questions. Et on ne va pas analyser la suite du texte, mais Jérémie dit, écoutez, vous savez ce qui va vous arriver? Eh bien, ce temple-là, qui est tellement prestigieux pour vous, il va lui arriver exactement la même chose qui s'est passée lorsque l'Arche de l'Alliance était à Silo, du temps du sacrificateur Élie, E-L-I. Vous savez, vous connaissez ce texte du début de l'histoire de Samuel. Si vous allez vous promener à Silo, vous verrez quoi? Plus de traces du sanctuaire de cette époque. Vous avez les boucs, les chèvres qui se nourrissent, qui paissent. Bien, c'est exactement ce qui va se passer à Jérusalem. Mais voyez avec ce superlatif, c'est ici le temple de l'Éternel, le temple de l'Éternel, le temple de l'Éternel. Et voyez-vous, ce qui est intéressant, c'est que dans l'ensemble des Écritures, c'est la seule fois dans la Bible où une qualité